Ah, cela nous avait manqué de nous retrouver un lundi soir pour parler du foot européen, de ce qui s'est passé lors du week-end traditionnel. Le 11e épisode du Décrassage, c'est parti. Nous sommes suite à un week-end très très chargé. On a eu beaucoup d'actions sur ce week-end, avec notamment le match entre le Real et l'Athletic Bilbao, mais on a aussi le classiqueur dont on va parler. On va parler aussi du match entre City et Arsenal dans le débat un peu plus tard dans l'émission. On aura un édito aussi, notamment sur Xabi Alonso et sa décision de rester au Bayer Leverkusen. On a appris ça un peu plus tard dans la semaine passée, donc on aura l'occasion de réagir là-dessus. Et pour m'accompagner dans ce décrassage, comme chaque lundi, je suis accompagné d'une fine équipe. Je suis avec premièrement peut-être un qui a eu un match un peu compliqué ce dimanche. Il va nous en dire deux mots pendant cet épisode du décrassage. C'est Flo. Comment vas-tu, cher ami?
Non, bah, il y a plus match compliqué dimanche, honnêtement. Ça a été, on en a, ouais, j'ai mes mots. Bon, on en reparlera. Et ouais, je commence en bégayant, ouais. Mais c'est un magnifique intro, ça. Voilà. Mais c'est parce que je vois victoire et ça me ravit les pupilles. Je te vois aussi, Quentin. Franchement, ça me manquait un petit peu le décrassage. La trêve internationale était très, très longue, très ennuyante, très fastidieuse. Donc, on repart avec du très beau football ce week-end et ça fait du bien de reparler avec vous, les gars. Ça me tenait à cœur d'être ici, en tout cas.
Ah, ça me touche beaucoup, ce que tu dis là. Ça me touche énormément. Et puis Victor, voilà, comme tu l'as dit, nous accompagne également un trio de choc pour reprendre après la trêve internationale. Comment vas-tu, Victor?
Eh ben, écoutez, très bien. Très content d'être avec vous aussi pour cet épisode du décrassage. Il y a une grosse actualité durant tout le week-end avec des belles rencontres que j'ai pu suivre. J'ai pu regarder énormément. Je me suis fait un bon petit week-end football, donc j'ai hâte d'en discuter avec vous.
Alors, c'est le premier débat que je vais vous poser, les gars. Week-end de Pâques, football ou famille?
Football. Famille après.
Ah, le sens des priorités.
Bien sûr.
Flo, ça a dû être la famille un petit peu quand même, j'imagine.
Bah écoute, je ne suis pas le chef à la maison, c'est ma femme, donc du coup, ça a été famille. Hein. Voilà,
la maîtrise de la télécommande, madame, c'est ça?
Non, c'est que bah du coup, pour rien de cacher aux auditeurs, samedi, j'ai passé mon après-midi dans les magasins de puériculture pour préparer l'arrivée du bébé, donc j'ai pas eu trop de l'occasion de suivre le week-end de foot le samedi. Le dimanche, par contre, j'étais vraiment posé devant mon canapé, ouais.
On rappelle que ce sera le premier bébé temps additionnel, hein, je tiens à le préciser. Donc, en effet, il faut prendre du temps pour préparer tout ça. Tu as bien fait, Flo. Ouais, c'est vrai, petit week-end. J'ai alterné entre famille et football. J'aurais peut-être plus dû alterner avec ma famille plus que le football, pour le coup, au vu de ce que j'ai vu ce week-end, moi, en tant que supporter marseillais. Mais bon, la vie est comme ça. La vie d'un supporter est faite ainsi, imprévisible. Et puis non, on s'est régalé. Hein, on s'est régalé sur les affiches dont on va parler, nous. Notamment sur le derby, sur le classiqueur, pardon, entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Si vous voulez, messieurs, on va tout de suite sur ce terrain-là. Ça faisait un bon moment que le Borussia Dortmund ne l'avait pas emporté en championnat à l'extérieur face au Bayern Munich. On en avait discuté hein, lors de la preview avec Adrien, notamment David et Maxime, sur la preview du classiqueur en fin de semaine dernière. Une victoire 2-0 complètement méritée hein, pour les hommes d'Edin Terzic. On a vu un Bayern souffrir. C'est assez symptomatique de ce qu'on voit depuis maintenant le début de saison. Un Bayern quasiment sans idée dans les grands rendez-vous, dans les grands moments de cette saison. Le Bayern a tout le temps failli à sa tâche et on l'a vu ce week-end face à son ennemi préféré qu'est le Borussia Dortmund. Et première défaite en 10 ans à la maison face au Borussia Dortmund, c'était pas arrivé depuis 2014. Donc c'est vraiment fou ce qu'ont réalisé les hommes de Terzic. Mais pour autant, alors si on peut parler d'exploit hein, pour le Borussia Dortmund, jetons un œil quand même au classement puisque on va parler aussi comptable. Donc là, ça ne sert pas du tout Bayern Munich puisque le Bayern, en effet, avec cette défaite, laisse filer le Bayer Leverkusen qui s'est encore imposé de justesse ce week-end, mais s'impose encore 2-1 face à Hoffenheim et compte désormais 13 points d'avance sur le Bayern Munich. Alors, de son côté, le Borussia Dortmund avec cette victoire recolle au Bayern Munich, mais possède quand même toujours 7 points de retard sur son adversaire du week-end. Est-ce qu'on peut quand même, du coup, alors, il y a l'exploit de gagner face à un rival contre qui tu as pu gagner à l'extérieur depuis 10 ans, ok, mais est-ce que C'est un exploit qui reste sans saveur, messieurs. Je vais peut-être laisser la parole d'abord à Victor qui nous a concocté le programme du jour. Hein. Rendons à César ce qui est à César. Mais ouais, c'est vrai. On peut se poser la question. Est-ce que c'est un exploit qui au final restera anecdotique sur la saison du Borussia Dortmund?
Si vous êtes supporter du BVB, non, forcément, ça reste toujours important de remporter ce genre de classiqueur. Maintenant, pour donc la majorité des fans de football qui ne sont pas supporters du BVB, franchement, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, parce que si, ça me fait ni chaud ni froid. Finalement, c'est une victoire clairement qui n'a aucun impact. Alors tu parles du fait que Dortmund revient à 7 points du Bayern, mais la lutte du Borussia Dortmund cette année n'est pas là. Il est contre le RB Leipzig, voire peut-être même contre Stuttgart, essayer de revenir sur Stuttgart pour cette troisième place. Mais c'est surtout s'assurer une qualification en Ligue des Champions à la fin de l'exercice 2023-2024. Donc c'est un résultat important, sachant que Dortmund réalise pour le coup une année 2024 très intéressante en termes de résultats. Mais comme toujours dans le jeu, c'est pas flamboyant, et ce classiqueur en est le parfait exemple. Je crois que c'est la première victoire d'Edin Terzic dans un classiqueur d'ailleurs depuis qu'il est sur le banc du Borussia Dortmund. Si on prend la prestation en plus globale, le match, alors le Bayern Munich au niveau des individualités et de l'idée, bien sûr que ça manquait cruellement d'inspiration, qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des individualités qui franchement n'ont pas répondu présent. Dortmund n'a pas été non plus incroyable. Alors il y a des performances individuelles à pointer du doigt du bon côté pour le Borussia Dortmund. Mats Hummels a été exceptionnel sur cette rencontre. Il nous a rappelé le grand défenseur qu'il est, qu'il était dans le passé et qu'il est en tout cas qu'il a toujours aujourd'hui. J'ai été agréablement aussi surpris, pas surpris, mais je sais que Julian Brandt cette saison, ça c'est un peu les montagnes russes. Là il nous a proposé 60 minutes assez intéressantes. Karim Adeyemi, celui qui ouvre le score, est toujours aussi efficace en transition, mais le match a été d'une pauvreté à certains moments techniques. En Bundesliga, où on est habitué à avoir un certain spectacle, là, entre les deux, normalement deux des meilleurs effectifs d'Allemagne, moi j'ai vu des individualités vraiment pas au niveau d'un tel rendez-vous. Donc pour toutes ces raisons, et en plus parce que ce Dortmund de Terzic, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises dans ce podcast, ne m'inspire rien, et en plus ils font une saison très moyenne, il n'y a pas vraiment d'enjeu. En fait, on aurait aimé que cette victoire dans un classiqueur comme ça à Munich ait un peu plus de conséquences. Là, on va dire que c'est bien, c'est pour la dynamique, c'est dans la continuité de leur bon résultat en 2024. C'est important dans la lutte pour la qualification à la Ligue des Champions, mais on en attend beaucoup plus normalement de cette équipe du Borussia Dortmund. Donc,
ce qui est dingue, c'est que dans une saison très moyenne, ils sont quand même capables d'aller chercher un quart de finale de Ligue des Champions et qui sont dans une confrontation où ils ont toutes leurs chances, tu vois. En plus, donc
le tirage est cool.
Oui, voilà, le tirage.
C'est la poule de la mort. Ça, par contre, en poule, moi, j'ai été, le niveau qu'ils ont montré face à Newcastle, le niveau aussi qu'ils ont montré face à l'AC Milan. Alors, c'est pas un niveau extraordinaire, mais c'est un esprit collectif qui m'avait vachement surpris, parce que ils sont allés chercher des résultats vraiment à la force de caractère. Là où on sait que Dortmund, mentalement, peut faillir, et l'a montré sur les dernières années, notamment l'année dernière dans la course au titre face au Bayern. Donc ça, c'était surprenant. Après, là, ils ont un tirage qui me semble quand même assez efficace pour aller jusqu'en quart. Là, faudra voir ce que ça va donner face à l'Atletico. Il y a moyen qu'ils se mangent un mur quand même. J'ai un peu peur de ça. En tout cas, je préférais voir l'Atletico en demi plutôt que ce Borussia Dortmund, pour être totalement transparent. Mais c'est vrai qu'au moins sur la scène européenne, il y a des trucs qui tu peux te contenter de ça. En fait, si t'es fan du BVB, tu peux y voir quand même quelque chose, un signal important en vue de cette double confrontation contre l'Atletico, cette victoire face au Bayern, c'est clair. Ça fait 10 ans que t'attendais une victoire à Munich, donc oui. Mais moi, en tant que fan de football neutre, je suis un peu tristoun, quoi, que ça ne soit pas arrivé dans un autre contexte. Et que, en plus de ça, il n'y a pas encore eu une nouvelle fois la manière, quoi. C'est une victoire parce que le Bayern est nul. C'est pas parce qu'une victoire parce que Dortmund est flamboyant.
Voilà, je sais que Flo, de son côté, lui, a un avis plutôt différent du tien par rapport à cette victoire du Borussia Dortmund. Donc, Flo, ouais, si tu veux enchaîner par rapport à ce que vient de dire Victor.
Symboliquement, moi, je trouve que cette victoire, elle s'inscrit quand même dans quelque chose. C'est pas anodin. Cette défaite du Bayern Munich, ça montre quand même la fin d'une ère, la fin de 11 années de domination sur le championnat allemand. Et alors, il est vrai que l'année passée, c'était déjà un petit peu en contestation. Il est vrai que Dortmund a failli, on va dire, les battre l'année passée et n'y est pas arrivé. Mais cette première défaite en 10 ans du Bayern face au Borussia Dortmund, ça montre, on va dire, pour moi, le déclin du Bayern et la fin de cette ère. Donc, elle est à prendre en compte par rapport à ça. Il est vrai qu'il va pas avoir énormément de conséquences sur le reste du championnat, même si, à mon avis, ça signifie quand même la fin de la course au titre du Bayern, s'il existait encore un temps soit peu. Il reste, je crois, 8 matchs. Donc, du coup, 3 fois 24, ouais. Il y a encore 24 points à prendre et il y a 13 points de retard sur le Bayern, sur le Bayern Leverkusen, excusez-moi. 7
matchs. Je crois qu'il reste que 7 matchs, si je me trompe. 7 matchs.
Ouais, donc 21 points. Donc, oui, il reste encore, bon.
Oui, 7, c'est ça. On est à la 27e journée, exactement.
Exactement, excusez-moi. Donc, du coup, ça fait 21 points, et 13 points, du coup, de retard à combler. C'est quasiment foutu. Ce qui me dérange quand même et ce qui montre aussi à quel point, cette défaite, elle est symbolique. C'est les mots que Tourelle a eu en conférence de presse après match, où il a quasiment dit clairement que c'était fini pour la course au titre. Tu es entraîneur du Bayern Munich, jamais, mais jamais.
Et il a félicité le Bayern Leverkusen, tu vois.
Exactement, non mais c'est hallucinant. Ça montre à quel point l'institution du Bayern n'est plus respectée, n'est plus reconnue et n'est plus la machine qu'elle devait être. Le comportement des joueurs de Munichois sur le terrain, puisque j'ai quand même eu après regardé le match. C'était hallucinant. Kane n'a mis aucune frappe cadrée, il n'a pas été alimenté, mais au-dessus du match de Kane, parce que c'est pas lui qui a blâmé au vu de la saison qu'il fait, c'est la faillite des leaders de cette équipe, les Goretzka, les Kimmich, les De Ligt, absolument transparents sur ce match-là. Enfin, pas totalement transparents, mais je parle dans le comportement. Honnêtement, ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils devaient être. Victor a parlé d'absence d'individualité. À l'époque du Bayern, quand il y avait des moments faibles, il y avait des temps creux comme ça, il y avait toujours une individualité, voire deux ou trois, qui faisaient le relais sur le terrain pour insuffler un nouveau souffle. Ça, on ne le voit plus. Et ça m'inquiète pour eux, pour la Ligue des Champions, puisque je ne sais pas où c'est qu'ils vont trouver la motivation pour relever ce niveau-là. Cette équipe-là, elle a du talent. Cette équipe-là, elle a largement les moyens de mettre Arsenal en difficulté. Mais au vu de tout ce marasme mental qu'il y a dans ce Bayern-là et cette fin de saison qui s'annonce plus ou moins en roue libre, ça me fait un peu peur. Et cette défaite-là, à mon avis, pour moi, elle marque justement, bah, symboliquement la fin de ce Bayern de Munich, la reconstruction qu'il va y avoir et qu'il va, à mon avis, falloir, à mon avis, une ou deux saisons pour remettre ce Bayern dans la marche, dans le sens de marche. Aujourd'hui, les difficultés que le Bayern pouvait avoir, elles ont été résolues avec l'arrivée d'un Kane qui n'est pas du tout la recrue que le grand Bayern aurait dû avoir, aurait dû faire. Un Kane, quand tu es le Bayern de Munich, tu le fabriques, tu ne vas pas le recruter, tu ne vas pas recruter un attaquant de 31 ans, 32 ans qui va combler un petit peu, effacer tous les défauts que tu as. Donc je suis très curieux de voir quel sera le futur entraîneur du Bayern Munich, qui va devoir avoir un travail colossal pour refaire du Bayern ce qu'il était auparavant. Et je pense que cette défaite, en fait, elle montre la fin de cette domination qui va durer, à mon avis, pendant 2, 3, voire 4 ans, suivant ce qui arrivera plus tard.
Victor, pour terminer, parce qu'après on a d'autres matchs à traiter hein, sur ce débrief du week-end. Vas-y, Victor.
Mais donc là, ce qui est bien, c'est que Flo a parlé des problèmes du Bayern, mais donc on est d'accord, Flo, parce que t'as fait un focus uniquement sur ça, c'est la défaite du Bayern Munich. Donc la victoire du Borussia Dortmund, on s'en fout un peu. C'est plus significatif et symbolique pour le Bayern que symbolique et significatif pour le Borussia Dortmund. C'est la fin de l'hégémonie du Bayern, et tu le dis bien, c'est que toute cette défaite est tout un symbole, mais ce n'est pas une défaite qui permet à Dortmund d'anéantir cette hégémonie bavaroise, parce que c'est tout simplement Leverkusen cette saison qui va mettre un terme à cette domination. C'est là où je dis que c'est sans saveur, c'est qu'on aurait aimé que cette victoire dans le classiqueur, voilà, ça soit la fin du grand Bayern de Munich pour mettre en place le fameux Borussia Dortmund, une nouvelle ère, pourquoi pas. Finalement, juste Dortmund fait le sale boulot pour le Bayern Leverkusen.
Non, oui, parce que vous savez très bien, excuse-moi Quentin, que Terzic, au final, il aura pas vérité à rester longtemps au Borussia.
S'il vous plaît.
Très clairement.
Nous vous en supplions, s'il vous plaît.
Donc, c'est vrai que ça montre pas un basculement de force, mais ça montre plutôt la fin d'un règne. C'est plus comme ça que je voyais cette défaite-là.
De toute façon, du côté du Bayern et du Borussia, il devrait y avoir du mouvement cet été sur les deux bancs. En tout cas, pour Terzic, je sais pas encore sûr, mais il y a des rumeurs, en tout cas, par rapport à un éventuel changement d'entraîneur d'ici la fin de saison. On file du côté de l'Angleterre. Alors, c'est pas une rencontre dont on a parlé dans les previews du week-end, mais c'est une rencontre qui avait toute son importance en Première Ligue, puisque Liverpool recevait Brighton dans le cadre de la 30e journée de Première Ligue, et Liverpool s'est imposé 2-1 face aux Seagulls de Roberto De Zerbi. Et c'est un résultat, Flo, qui, pour le coup, aide grandement Liverpool à prendre son destin entre ses mains et profiter du coup d'un score neutre City et Arsenal.
Complètement, oui. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à pronostiquer une baisse de régime de la part de Liverpool qui devrait arriver ou qui va arriver peut-être dans les matchs qui viennent. Ce qu'on se rend compte, c'est que on avait peut-être vu un fléchissement avant la trêve internationale avec cette défaite contre Manchester United à Old Trafford en Cup, où là on pouvait peut-être avoir des doutes. Ces doutes-là ont été quand même rapidement balayés sur ce match contre Brighton, avec, c'est vrai, un début de match très compliqué où Liverpool se fait cueillir à froid et encaisse un but très rapidement. Mais sur le reste du match, honnêtement, il n'y a vraiment pas eu trop de débat là-dessus. Il y a eu vraiment une équipe de Liverpool qui a maîtrisé son match, une maîtrise qui est de plus en plus conséquente et qui montre que le système de Klopp, il est viable et que les joueurs, qu'ils soient sur la pelouse ou sur le banc, arrivent à répondre présent. Brighton n'a vraiment pas vraiment existé sur le reste du match. Il y a eu 2-3 sorties de balles intéressantes, mais au-delà de cela, Liverpool a vraiment maîtrisé ce match de la tête et des épaules. Et il y a eu un McAllister, honnêtement, qui porte cette équipe de Liverpool, qui brille de mille feux. Je vous invite vraiment à voir le deuxième but que Liverpool a marqué contre Brighton, avec donc un débordement de Szoboszlai qui crée un décalage de manière très intelligente. Alors, beaucoup de gens critiquent Szoboszlai, je trouve que ce match ne sont pas parfaits, mais il apporte ce que tu dois apporter, et il est sur une pente ascendante. Son impact viendra plus, à mon avis, la saison prochaine, quand il sera vraiment fait au rythme Premier League et à ce qu'on attend de lui. Aujourd'hui, pour une première saison à l'étranger, c'est quand même pas dégueulasse. Et donc, pour continuer, excusez-moi, donc, Szoboszlai déborde sur le côté, il lui remet une passe à McAllister à l'entrée de la surface de réparation, et la passe qui fait McAllister pour Salah est tout bonnement pure, exceptionnelle et tranchante. Une passe que peu de joueurs sont capables de faire, et le Liverpool marque 2-1, mais le match de McAllister, encore une fois, a été absolument hallucinant. Et Liverpool arrive à compter sur des individualités en plus d'un collectif qui marche pour cette course au titre. Et c'est ça qui va leur permettre de sortir la tête des lots, de réussir à maîtriser les matchs et de s'assurer une course au titre, on va dire, de manière plus confortable, avec moins de doutes, puisqu'on l'a remarqué, on va dire, à chaque match de Liverpool, il y a toujours au moins une ou deux individualités qui arrivent à permettre de sortir Liverpool de la tête de l'eau dans des matchs compliqués et à s'assurer quand même une maîtrise qu'il n'y a pas forcément auparavant. Contre Brighton, Salah n'était pas forcément au meilleur de sa forme, même s'il marque un but et qu'il arrive à sécuriser la victoire pour Liverpool. Mais il a été repris de volée par McAllister qui a fait un très bon match. Je pourrais aussi citer Kwanzaa qui a encore été très solide. Van Dijk était encore absolument exceptionnel. Il y a vraiment... je me répète encore un petit peu quand je parle de Liverpool, mais ce qui est admirable et ce qui est hallucinant, c'est que les joueurs qui ne sont pas forcément des cadres ou alors qui restent encore très jeunes dans la vie du groupe de Liverpool ou sous l'ère de Klopp prennent leurs responsabilités, assurent un niveau tout à fait homogène et qui leur permet de ne pas avoir de baisse de régime. Et ce Liverpool-là est vraiment très bien lancé dans la course au titre. Tu leur dis, ils ont leur destin entre leurs mains. Il y a encore quelques rencontres pièges, mais leur calendrier reste relativement abordable.
C'est ce que j'allais dire.
Exactement. Si tu regardes sur la suite de la course, il va y avoir United à Old Trafford et peut-être Everton à Goodison Park qui va être compliqué.
La réception de Tottenham, le déplacement à Villa Park aussi, il va pas être simple. Mais abordable. Quand tu regardes le calendrier, honnêtement, pour moi, je pense que là, Liverpool a fait l'opération de ce début de dernier tiers de championnat. Vraiment, je pense que là, Liverpool se met vraiment dans une très bonne position. Et un peu plus tôt dans la semaine, on avait fait un tweet sur le compte de temps additionnel en demandant aux auditeurs qui voyaient dans cette course au titre se détacher. Moi, personnellement, j'ai opté pour Liverpool avant les événements de ce week-end parce que j'ai trouvé que sur l'avant-trêve, c'était l'équipe qui, pour le moins, montrait le plus de certitude, plus de sérénité pour gérer ce scénario-là. En tout cas, sur ce qu'on a vu sur les dernières semaines. Moi, personnellement, depuis le début de saison, je vois un City qui peut être parfois un peu dépassé dans les grands rendez-vous. On l'a vu ce week-end, pas forcément dépassé, mais manquer de solutions, manquer d'inspiration, on en parlera tout à l'heure. Arsenal, j'ai encore quelques doutes, même si ça paraît mieux armé que l'année dernière. Et là, pour moi, ce qu'a montré Liverpool, a montré une sacrée force de caractère sur un match qui n'était pas simple du tout à aborder face à une équipe de Brighton qui est toujours aussi imprévisible, même si il y a un coup de moins bien depuis le début de la deuxième partie de saison pour les Seagulls et que c'est un peu en grosse perte de vitesse du côté de Zerbi. Mais honnêtement, je trouve que cette équipe des Reds, et je pense que je vais faire sourire Karel en disant ça, est favorite pour la course au titre. Au moment où on se parle, Moi, je prends une take, très clairement. Je trouve que Liverpool a les reins les plus solides pour terminer la saison.
En tout cas, ils ont leur destin entre les mains maintenant. Et ouais, à ce moment-là de la saison, c'est quand même vachement important. Après, je trouve que vous en faites peut-être un peu trop avec cette victoire, parce que je trouve ce Brighton vraiment limité. Moi, ce que je note, et je suis assez d'accord avec Flo, moi, ce que j'admire, c'est l'engagement qu'a l'entièreté du groupe de Liverpool envers son entraîneur, le respect qu'ils ont, et le fait que, voilà, Kelleher sort une parade à la 80e, alors que là, c'est le remplaçant d'Alisson. Quensa, 19-20 ans, troisième ou quatrième défenseur dans la hiérarchie, fait son travail. Joe Gomez, qui dépanne à chaque fois, qui ne déçoit pas. Donc, on a vraiment un groupe soudé. Je pense que le timing finalement de la décision du Jurgen Klopp, on en avait déjà parlé, je le trouve je le trouvais déjà bon, mais finalement il est vraiment excellent, parce que j'ai l'impression que ça a vraiment galvanisé l'entièreté du groupe. Et voilà, c'est important à ce moment-là de la saison d'avoir son destin entre les mains. Ils ont fait le bon résultat en allant chercher cette victoire parce que le scénario était compliqué. Maintenant, quand on regarde leur calendrier, c'était clairement les 3 points à prendre. C'était une nécessité parce qu'ils ont des matchs qui s'avèrent, en tout cas sur le papier, beaucoup plus compliqués à venir. Donc voilà, il fallait le faire, ils l'ont fait. Maintenant, place à la suite.
On parlera de ce qui s'est passé, bien sûr, lors de cette journée de première ligue, puisqu'il y a eu le match entre City et Arsenal. Hein. Ça sera l'objet de notre débat. Du jour, un petit tour en Espagne aussi, puisqu'il y a eu un gros match entre le Real Madrid et l'Athletic Club. On en avait parlé avec toi, Victor, un peu plus tôt, il y a quelques jours. Victoire de patron des Madrilènes. On avait une petite crainte de ce déplacement, de cette réception, pardon, du club basque. Au final, les hommes d'Ancelotti ont plutôt répondu présents sur cette rencontre et avancent dans cette course au titre qui. Semble ne pas pouvoir leur échapper, sauf on en avait parlé l'autre jour, mais sauf des illusions, ça devrait pas échapper aux Madrilènes.
C'est vrai que la série d'invincibilité du Real Madrid de 19 ans à domicile face à l'Athletic Club finalement continue. Toi et moi, Quentin, on avait pris la tech que pourquoi pas ça s'arrêterait ce week-end.
Au final, tech foireuse.
Finalement, ouais. Mais alors, on n'a pas non plus un Real Madrid des grands soirs. On a eu un Real Madrid très solide, très sérieux. J'ai été un peu déçu par l'Athletic Club. On sait, voilà, il n'y avait pas Nico Williams. Il y a eu une blessure en début de match hier qui les a aussi un peu plombés. Donc, il y a différentes explications. On a eu un très, très grand Rodrigo. Je pense aussi que le but inscrit assez rapidement par Rodrigo et avec belle manière a tapé un peu psychologiquement dans l'Athletic Club. Lounine a été solide les 2-3 fois où il a été sollicité. Et puis voilà, on a un match de patron encore une fois du Real à domicile en tout cas actuellement lorsqu'il a fallu recevoir les grosses équipes à domicile, ils ont toujours fait le travail, 4-0 contre Girona, là ce match là face à l'Athletic Club. Ouais, à retenir, je dirais que là il y a Rodrigo qui est enfin renaît de ses cendres, c'est un point important, il nous a inscrit un magnifique doublé. On a encore vu toute la panoplie aussi sur certaines séquences de Jude Bellingham et même de Brahim qui nous a fait une belle performance. Donc oui, 8 points d'avance sur le FC Barcelone. On avait dit qu'il fallait absolument pour le Real ne pas se faire peur au niveau comptable avant de recevoir le FC Barcelone à domicile le 21 avril prochain dans cette lutte au titre, là où par exemple le Barça eux aussi se sont imposés ce week-end. Donc voilà, ils gardent leur matelas d'avance, de quoi mieux aborder le choc face à Manchester City et également d'aborder assez sereinement ce classico, ou s'il y a match nul ou victoire du Real, la course au titre sera sûrement définitivement finie.
Ouais, c'est cette date du 21 avril aussi qui va être importante hein, pour les Madrilènes et par ricochet pour les Catalans. Mais c'est vrai que pour le moment, au vu de l'avance qu'a le Real Madrid sur le Barça, des petites victoires comme ça, tu prends tant que tu.
Il ne faut pas se faire peur.
Mais il ne faut pas jouer à se faire peur. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas jouer à se faire peur. Et attention quand même, puisque. On l'a dit, le Barça revient plutôt bien sur cette dernière semaine. Avant la trêve, c'était plutôt intéressant. Je rappelle les matchs contre Naples en Ligue des Champions, contre l'Atlético, juste avant la trêve, qui était assez impressionnant. Donc honnêtement, voilà, pour le moment, je ne vois pas comment le Real Madrid pourrait se laisser prendre le titre par le Barça cette année. Mais attention quand même à pas trop être dans l'attentisme et être surpris au final coiffé sur le drapeau par un FC Barcelone qui ne payait pas de mine en début de saison et qui commence à se réveiller sur le dernier tiers.
Et je vais revenir sur un symbole, puisque donc aujourd'hui j'ai l'impression que je parle beaucoup de symboles, je suis un petit peu un guide touristique. c'est ce renouveau de Rodrigo du coup qui restait quand même sur je crois 465 minutes sans marquer. Il était fortement remis en cause. D'ailleurs, sur le compte additionnel, temps additionnel, excusez-moi, on avait parlé d'un possible départ pour lui avec l'arrivée de Mbappé. Il a répondu de la plus belle des manières. Je pense que ça montre aussi à quel point c'est un joueur d'effectif qui est important, qui a certes eu une saison un petit peu compliquée avec beaucoup d'inconstances, un passage à vide là récent, mais sa polyvalence et puis le talent qu'il a encore montré hier montre que c'est un joueur sur lequel il faudra compter sur le sprint final. Comme vous dites, avec la course au titre face à Barcelone et les quarts de finale de Ligue des Champions qui arrivent, c'est important d'avoir des joueurs sur qui on peut compter. Il se lance parfaitement pour ce sprint-là et puis il va pouvoir peut-être montrer que il faudra compter sur lui, ne pas forcément l'enterrer avant l'arrivée de Mbappé.
Rodrigo qui montre du coup qu'il écoute et qu'il suit en additionnel pour nous répondre de cette façon.
Et durant cette additionnel. Durant cette rencontre, Vinicius Junior était absent, suspendu, et donc justement Rodrigo a pu retrouver ses zones d'influence sur le terrain, partir de la gauche, coller la ligne à gauche et puis s'infiltrer dans les demi-espaces et jouer ses 1 contre 1. C'est là où on le sait, c'est le meilleur, mais lorsque Vinicius est présent, bah Vinicius occupe cette zone-là et on va dire qu'il évolue à un niveau légèrement supérieur à l'autre jeune brésilien. Donc c'est le brésilien qui est un peu sacrifié, qui doit occuper d'autres espaces là où il excelle un peu moins. Donc c'est la preuve que oui, on a besoin d'un Rodrigo à ce niveau-là. De un, lorsque les joueurs stars vont être un peu moins en méforme ou être carrément absents comme c'était le cas ce week-end. Et puis ça ne peut que le remettre en confiance, le remettre sur de bons rails, comme tu l'as dit Flo, pour ce sprint final. Maintenant, bien sûr que l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé posera la question du cas Rodrigo. Moi, j'adorerais pouvoir le conserver au sein du club en tant que super sub. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas le potentiel pour évoluer titulaire dans un grand, grand club? Bien sûr que si. Donc, il y aura un problème de riche en cas de venue de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid.
Alors, faisons un petit tour d'Europe, messieurs, avant de passer au débat sur le match entre City et Arsenal. C'était la première de la Lazio d'Igor Tudor. Donc, après le départ de Maurizio Sarri, l'ancien coach de l'OM a pris la place du coach italien et ça s'est soldé par une victoire, un très gros test pour Igor Tudor. Un très gros test et une victoire 1-0 sur la Juve en toute fin de rencontre avec une passe décisive de Matteo Guendouzi. Comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Il n'avait pas fait débuter la rencontre alors que depuis le début de saison, c'était un des hommes forts de Sarri et il lui a répondu de la plus belle des manières en espérant que voilà, Guendouzi ne connaisse pas encore l'odeur du banc comme il l'a connu à Marseille en fin de parcours avec Igor Tudor. Mais bon, voilà. En tout cas, très bon démarrage pour les Lazio avec Igor Tudor qui enchaînent une deuxième victoire après une victoire face à Frosinone avant la trêve et reviennent à 4 points des places européennes. Donc ça peut être, enfin reste à 4 points hein, à hauteur parce que l'Atalanta et la Roma se sont imposés également de l'autre côté. Hein, l'Atalanta qui a fouetté le Napoli hein, 3-0. Voilà, c'était assez violent.
Le Napoli. Au stade Diego Armando Maradona.
Ouais, en plus, ouais, c'est une saison bien galère hein, pour le champion en titre. En Espagne, on a parlé du Barça. Oui, le Barça qui gagne encore. Alors, très faiblement, mais qui gagne 1-0. Encore un clean sheet pour les hommes de Xavi. Et Girona qui, pour son compte, hein, remporte une belle victoire assez importante dans la course à la Ligue des Champions face au Real Betis. Et qui se place plutôt très bien sur ce dernier tiers et qui va devoir défendre sa place dans le top 4, bec et ongle. Et puis, côté allemand, et puis ça nous permettra de parler aussi de Xabi Alonso en fin d'émission avec l'édito de Victor. C'est une équipe qui est invincible. Elle était menée 1-0 jusqu'à la 88e et elle perd 2-1 et elle gagne 2-1. Voilà, face à Hoffenheim. 13 points d'avance sur le Bayern. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le Bayer Leverkusen d'être champion? Voilà, s'appeler le Borussia Dortmund peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi. Mais non, là, non. Non, mais voilà. C'est un titre qui leur tend les bras. Et puis, côté Angleterre, on peut noter aussi la remontada, la grosse remontada de Newcastle face à West Ham ce week-end. Victoire 4-3 des Magpies dans un match où ils étaient menés 3-1. Hein, donc, c'est une grosse.
Et dans lequel Calvin Phillips est rentré et ils ont pris 3 buts. Une rentrée catastrophique de Phillips qui met en perspective un petit peu pourquoi Guardiola ne comptait pas sur lui.
Et puis, il y a eu aussi une actu moins drôle hein, pour Newcastle, c'est le capitaine hein, Jamal Lascelles qui s'est pété 6-9 mois d'absence hein, pour Jamal Lascelles. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement bien sûr. Newcastle qui est bien en galère au niveau infirmerie aussi. Mais bon, ça c'est un autre débat. Passons justement au débat de ce lundi soir avec un match qui a suscité le débat justement. Le match entre Manchester City et Arsenal, 0-0, score final. On s'attendait peut-être à un peu mieux, un peu plus de spectacle entre les deux équipes. Alors, Ça dépend du point de vue sur lequel vous allez vous placer. Ça a été très discuté hein, sur les réseaux ce dimanche, notamment. Voilà, est-ce que le match vous a plu? Est-ce que le match manquait de spectacle? Est-ce que au final, c'est plus la notion tactique qui vous a plu sur ce match? Est-ce qu'on doit être admiratif, frustré? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre. Déjà, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces affrontements entre les équipes de Guardiola et d'Arteta? Parce que c'est souvent, alors parfois la même analyse, c'est qu'on se fait assez régulièrement, alors c'est pas mon avis personnel, mais c'est un constat global bien sûr, on se fait parfois un peu chier. Voilà.
Regarde les pincettes qu'il prend avec moi, c'est mignon.
Voilà. Non mais je préfère te le dire, parce que c'est pas forcément l'analyse que j'en fais, mais c'est en effet le constat qui a été fait globalement sur les réseaux ce dimanche, c'est que c'est un match qui a été plutôt ennuyeux.
Ça dépend pour qui.
Mais oui, mais voilà, ça dépend sur quel point de vue tu le places. Donc toi, par exemple, en tant que supporter, par exemple, est-ce que tu as apprécié ce match-là? Est-ce que tu t'es pas ennuyé?
Absolument pas de mon côté, mais c'est parce que aussi je suis un geek du football qui adore beaucoup.
Tu vas pas le contraire. Tu vas pas dire le contraire, Flo.
C'est parce que t'es un geek du football ou parce que t'es fan d'Arsenal? Parce que c'est pas la même chose.
Il y a les deux choses. Alors d'un point de vue fan d'Arsenal, évidemment que j'ai pris du plaisir à voir ce match-là et que j'ai pas décroché. Mais si j'avais été, si ça avait été par exemple un City Liverpool, j'aurais été vraiment très intéressé dans le match dans tous les cas, puisque en termes de tactique sur ce match-là, pour moi c'était une vraie partie d'échec. On a très bien vu. Si tu t'intéresses beaucoup à l'aspect tactique d'une rencontre, tu peux voir à quel point le niveau de détail dans lequel sont rentrés Guardiola et Arteta sur ce match-là, qui était assez fou. Que ce soit au début de match, on a vu le plan de jeu de Arteta qui a rapidement été mis à mal par Guardiola, la façon dont Aki a réussi à dominer le milieu de terrain et a réussi à faire pousser la ligne d'Arsenal qui se voulait beaucoup plus haute, beaucoup plus basse. Ensuite, il y a eu la blessure de Ake qui a déstabilisé un petit peu City, Arsenal qui a tenté d'en profiter, qui a essayé de reprendre l'ascendant dans la domination. Les changements ici ont été très importants avec du tac au tac, un changement de la rentrée de Doku, et puis pour contrer ça, la rentrée de Tomiyasu pour éviter de faire des différences individuelles. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se sont jouées sur des détails. Encore une fois, ça ressemblait quand même beaucoup match aller dans la disposition tactique des matchs, avec des équipes qui essayaient de jouer sur le plan faible des autres équipes, beaucoup de craintes entre les deux équipes, beaucoup de respect entre les deux équipes, et je me ferais peut-être des ennemis, mais honnêtement, je vois pas en quoi ce match-là était plus ennuyant qu'un City-Liverpool, il y a eu un partout, par exemple.
Mais tout simplement, parce que tu l'as dit, le match aller était pareil, et le match d'avant était aussi pareil, et le match encore d'avant était aussi pareil.
Je suis moins d'accord. Le match d'avant, il y a eu 3-1 pour City. Le match d'avant, il y a eu 4-1 pour City. Il y a eu quand même des choses. Et Arsenal, la saison passée, a essayé de beaucoup être beaucoup plus ambitieux offensivement parlant, a eu moins d'assises défensives et s'est plus rapidement fait punir.
Alors, on va sur le match où Manchester City s'est imposé 4-1 l'année dernière lors de la rencontre qui était également dans la course au titre. On s'est pas fait chier parce qu'il y a eu des buts, mais concrètement le spectacle était là aussi pas au rendez-vous. En fait, moi je vais te dire quelque chose. Je trouve les rencontres généralement aussi fascinantes d'un point de vue tactique. Je suis également un geek du foot. En tant que fan d'Arsenal ou en tant que fan de Manchester City, c'est normal de prendre du plaisir même devant un match pareil parce qu'il y a de l'enjeu. Il y a de la pression. Donc, quoi qu'il advienne, vous allez vivre des émotions. Moi, en tant que fan neutre, en fait, ce qui me gêne, et pourquoi je trouve ce match pourri, mais alors vraiment pourri, c'est que j'ai déjà vu 3 fois le film, en fait. Et que, encore une fois, là, tu parles de, en fait, tu dis qu'il y avait des détails intéressants, sauf que, il y avait déjà les mêmes détails au match aller. Il y avait déjà ces détails-là l'année dernière sur plein de rencontres. Il y a eu 0 prise de risque de la part des deux entraîneurs. Il y a eu 0 ajustement réellement tactique parce que même les rentrées de Doku à la 60e pour essayer de déstabiliser puis la réponse d'Arteta, il suffit d'avoir regardé un peu de football pour savoir qu'il faut faire ça. Il y a aucun des deux entraîneurs qui n'a voulu surpasser ce moment. Et moi, je me suis clairement emmerdé durant cette rencontre à me dire, on va revenir sur un autre point et les mecs sont pas obligés de faire du spectacle. Hein. Et notamment, je vais défendre plus Arsenal que Manchester City durant ce truc-là parce que c'est un meilleur résultat pour Arsenal que Manchester City. Mais on se fait clairement chier parce que c'est un jeu de position à outrance. Les deux managers veulent tout contrôler, ne laissent aucune liberté aux deux équipes. Alors oui, c'est fascinant de voir avec quel point Arsenal a aussi bien défendu les demi-espaces. J'ai jamais vu Manchester City autant galérer à prendre les demi-espaces dans une rencontre. Sauf que c'était déjà le cas au match aller. Et Manchester City n'a fait aucun effort pour bousculer ça par peur de se mettre en danger. En fait, j'ai eu l'impression de voir Baki contre Doumbé. 0 prise de risque des deux côtés. Et sincèrement, le parallèle, il est que il y a 0 prise de risque des deux côtés. Et je suis désolé, moi, je suis tombé sur Baki contre Doumbé. Je vais tomber contre Manchester City Arsenal. Et le pire,
c'est qu'eux ont déjà pu se jauger avant. Ils ont déjà pu voir deux fois dans cette saison, parce qu'ils se sont joués aussi pour le
Community Shield.
Oui. Pour le Community Shield. Ils ont déjà pu voir ça. Ils savaient déjà, et pourtant il y a zéro prise de risque. On s'est fait chier. Il n'y avait pas de spectacle. Maintenant, je l'ai dit, on va en parler. Est-ce que les skis sont obligés de faire du spectacle? Bien sûr que non. Et c'est pas moi qui vais vous le dire, parce que je suis un pragmatique. Mais là, Guardiola et Arteta, moi, j'ai un problème, et notamment avec les gens qui défendent ces deux personnages. J'ai pu voir Elliot, allez, je vais citer Elliot sur les réseaux, dire, ouais, les gens, ils comprennent rien au football, c'était une rencontre passionnante. Mais Guardiola, Arteta et Elliot Lafleur sont des défenseurs du beau jeu. Mais ça fait trois rencontres, vous nous chiez dessus. Arrêtez de me bassiner avec la dictature du beau jeu si c'est pour réellement nous proposer ça et ne pas prendre de risques. C'est le football, soit le football est un sport où il faut mettre la manière, soit le football est un sport de résultat. Là, Guardiola et Arteta, ils ont joué clairement pour le résultat. Il y a pas de manière là, peu importe ce qui allait se passer.
Moi, je peux comprendre Victor dans le sens où il y a en effet ce double discours qui est très agaçant. On nous parle sans arrêt d'entraîneurs, justement, et franchement, on est heureux de retrouver ces entraîneurs-là, nous donner leur composition, leur prestation chaque week-end, parce qu'on attend de voir du beau jeu, etc. Parce qu'on est habitué avec ces gens-là. Mais c'est vrai que, bah, du coup, il y a les intérêts, et on peut le comprendre, les intérêts d'un club qui va passer une prestation qui nécessite peut-être moins de spectacle, moins de prise de risque. Et ça, moi, je l'entends parfaitement. Je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. Tu me dis, oui, bah, faut peut-être mettre un peu moins d'intensité, prendre un peu moins de risques pour sécuriser peut-être un résultat parce que ça va être important dans la course au titre. Il y a des forces à aller donner ailleurs, peut-être. Ça, je l'entends parfaitement. Mais qu'on nous dise pas et qu'on vienne pas nous reprocher quand même de pas avoir aimé ce match-là parce que justement, moi, en tant que fan de football neutre, après, c'est vrai que ça diffère en fonction de si tu as un attachement ou pas à l'équipe, peut-être. Mais en tant que fan de football neutre, sur ce match-là, moi, j'avais envie de voir, surtout au vu de la situation des deux équipes, prenez des risques. Tu sais, en plus que t'as un club qui s'appelle Liverpool, qui va prendre des points potentiellement face à Brighton. Je sais plus dans la chronologie si Liverpool avait joué avant.
Il les avait déjà pris.
Tu sais que Liverpool a pris des points. Va prendre des risques. Tu sais que Liverpool a un calendrier peut-être un peu moins compliqué que le tien. Va prendre des risques. Il faut y aller. C'est maintenant. On est dans le dernier tiers de la saison. On n'est pas en septembre.
Et c'est là où on peut défendre. Excuse-moi Flo, on peut clairement défendre Arsenal parce qu'Arsenal a raison de tenir sa position. Et Arteta, d'un point de vue résultat, a eu raison de jouer ce match-là. Je suis beaucoup plus agacé par Manchester City et j'ai vu notamment des arguments qui disaient ouais mais ils sont spectaculaires tout le reste de la saison. Mais encore heureux que Manchester City, avec l'équipe, l'effectif qu'ils ont, et coaché par Pep Guardiola, qui se veut être un entraîneur offensif, qui met des idées en place avec son jeu de position à outrance, soit spectaculaire contre Crystal Palace. Moi, ce que j'attends de ce genre de rencontre, c'est qu'il me fasse vibrer, et je ne demande pas qu'il y ait 4-0, il peut y avoir de très bons 0-0. Et si ce match-là était le seul de la trilogie de cette année, je vous aurais dit que ce match-là, sincèrement, était pas horrible. Parce qu'il y a des points tactiques super intéressants. Comment Arsenal a géré les demi-espaces? Comment Manchester City a apporté le surnombre et a réussi à casser le pressing en permanence d'Arsenal? Comment eux, par contre, Manchester City, ont réussi à presser, quitte à obliger Raya sur chaque semestre à allonger et Arteta a donné cette consigne de relancer long et plus court? Ça, c'est intéressant. Sauf que je l'ai déjà vu deux fois. Et moi, quand la trilogie Star Wars, la nouvelle trilogie Disney, est sortie, qu'ils m'ont fait le 7, qu'ils ont copié le 4, là, ça m'a fait chier. Et quand ils ont fait le 8 qui copie, ils me font chier. Là, c'était un peu la même chose. J'avais vraiment cette sensation de, putain, vous voulez vraiment qu'on s'arrête là, quoi. Vous voulez qu'on subisse ça. Et donc, j'ai un vrai problème avec ce double discours, avec cette mentalité-là. Maintenant, tu l'as dit, il y a des choses très intéressantes. Arsenal, c'est un très bon résultat. Arsenal, c'est très très bon. Déjà, vous avez empêché Manchester City, je sais que c'est toi, en plus tu t'avais RT cette stat, Flo. Vous avez empêché Manchester City de marquer à l'Etihad. Ça ne fait je ne sais combien de temps que ce n'est pas arrivé. Voilà. Donc, la performance défensive d'Arteta et d'Arsenal, fantastique. Très intéressante à décortiquer et ce que vous voulez. Les ajustements, non. Mais voilà, on se fait, c'est relou, quoi. Un peu. Et les Liverpool City, on sait que c'est grâce à Klopp que c'est spectaculaire. On le sait. Parce que ce jeu de position de Guardiola, et Arteta est l'élève préféré et son élève préféré est le meilleur élève de Guardiola, ce jeu de position, moi, c'est pas ma sensibilité, mais je vais même aller plus loin. C'est pas beau. C'est pas spectaculaire, mes amis. C'est pas le football. C'est autre chose. Après, ça marche. Donc, Guardiola est vraiment pragmatique. On en parle souvent comme un romantique, mais c'est un pragmatique parce que ça marche. Et c'est pas spectaculaire, c'est pas joli. S'il n'y a pas KDB pour te faire une passe cachée, ou Bernardo Silva pour éliminer 2-3 joueurs sur une action individuelle, franchement, la majorité des matchs de Manchester City, moi, c'est pas mon foot.
Alors, je vais quand même rebondir sur beaucoup de choses qui ont été dites, parce qu'on m'a quand même beaucoup coupé la parole, les gars.
Oh, monsieur,
je vais pleurer. Non, la première chose, c'est que Victor dit que ce match-là était un copier-coller du match aller. Je ne suis pas d'accord. Sur le match aller, Arsenal avait une dominance et City était en position défensive. Sur ce match-là, c'est City qui est en position offensive et Arsenal qui est en position défensive. Si Guardiola n'a pas inventé, n'a pas révolutionné, n'a pas apporté de prix des risques, expliquez-moi pourquoi Arteta a été pris par surprise sur le début de match par l'équipe de Guardiola et pourquoi Arsenal a joué aussi bas alors qu'on l'a vu, directement sur les premières minutes que Arsenal avait la volonté de s'installer dans le jeu, dans le camp de City et de mettre une pression côté Citizen. Il y a eu des ajustements sur la position défensive et sur la relance de City qui ont quand même permis à City d'assurer une dominance complète sur l'équipe d'Arsenal et d'occuper le jeu, donc le fameux tilt field qui est donc du coup le pourcentage de possession du camp où tu joues, qui a été largement dominé par City, justement parce que défensivement parlant, d'une, ils avaient réussi à soulever le pressing d'Arsenal, mais il y avait en plus dans la récupération et dans le contre-pressing de City des choses qu'on n'avait pas vues au match aller, avec par exemple l'utilisation d'un Rodri sur Rice qui a été hallucinante, qui a vraiment empêché Arsenal de ressortir des ballons proprement comme ils en avaient l'habitude. Il y a eu des choses vraiment différentes par rapport au match aller, par rapport à ça. D'autre part, et là vous me critiquerez peut-être parce que c'est vraiment du pragmatisme poussé au max, on loue beaucoup les prestations de Liverpool à l'Etihad. Liverpool, c'est 0 victoire à l'Etihad. Je ne veux pas recevoir de leçons de la part d'un entraîneur qui n'a jamais battu City à l'Etihad sur comment jouer à l'Etihad. Sachant qu'en plus, je finirai là-dessus aussi par rapport à la comparaison par rapport à Liverpool, c'est que sur ce match-là, Arsenal a créé plus d'expected goals que Liverpool à l'Etihad. Ce qui montre à quel point Arsenal a eu raison dans sa façon d'aborder le match et n'a pas été défensif ou alors ultra défensif comme j'ai pu l'écouter ou entendre parler de ça. C'est pas ça l'objet du débat. Je voulais juste caler ça parce que ça me tenait à cœur par rapport à ce que j'ai pu lire comme conneries sur les réseaux sociaux. Et je m'excuse, j'ai lu des conneries.
Non, mais bien sûr. Après, ce que tu viens de dire, et notamment sur la façon dont tu as joué Arsenal, et tu as tout à fait raison, Victor les a avancés.
Oui, ça, bien sûr. Mais voilà. Plus comment jouer City, il y a eu des prises de risque de la part de City. Alors, c'est vrai que c'est pas d'énormes prises de risque, c'est pas des choses qu'on voit et c'est pas des. Et on n'a pas eu, par exemple, une composition beaucoup plus offensive ou alors des changements, des choix forts dans le 11 de Guardiola, parce que honnêtement, le 11 de Guardiola, tout le monde aurait pu l'annoncer avant le début du match avec les absents qu'il y avait, ça, il n'y a aucun souci. Ce que je souhaitais dire, c'est qu'il y a quand même eu, dans l'animation et dans les choix de Guardiola, des choses différentes qui ont permis de surprendre Arsenal et qui n'ont pas payé, bien sûr, puisqu'il y a eu des gros problèmes dans les 30 derniers mètres côté City, ils n'ont pas réussi à résoudre la défense d'Arsenal et puis la façon dont ils ont été défendus les demi-espaces. Comme dit Victor, mais je ne pense pas que ce match-là était un copier-coller du match aller. Il y avait peut-être une physionomie qui se rapprochait avec l'équipe à domicile dominante et l'équipe à l'extérieur qui était en position défensive. Ça, je l'entends. Mais dans le schéma tactique et dans les duels tactiques, il y avait quand même beaucoup de choses nouvelles par rapport à ce qu'on a eu. Il est vrai, cependant, que dans le choix des changements, ça a été très peu inspiré de la part de Guardiola qui a fait la même chose qu'au match aller. Et Arteta n'a pas pris énormément de risques non plus parce qu'il est très pragmatique, il n'a pas voulu déstabiliser son animation. Il aurait peut-être pu en prendre plus, ça je suis d'accord. Mais voilà, honnêtement, moi j'ai pas vu un match conforme au match aller dans tous les cas. Et je voulais défendre ça.
Vas-y Victor, vas-y.
Après, sur la notion de prise de risque, il faut pas non plus surévaluer l'influence que peut avoir un entraîneur sur une rencontre. On va dire que les deux plans de jeu dans tous les cas de base et les deux idéologies des deux entraîneurs sont similaires. Donc c'est logique d'avoir ce résultat aussi sur le terrain. Quand je dis prendre des risques, j'attendais pas que Guardiola me foute Nathan Ake en pointe ou une connerie comme ça. Mais on va dire que sauf erreur individuelle, et c'est ça qui était aussi assez louable, c'est qu'il n'y a aucune erreur individuelle des deux côtés. Et encore, Arsenal, leur expected goal se crée sur des boulettes de Kovacic et se crée sur des erreurs de relance, parce que sinon Arsenal a été, pour le coup, moi je trouve assez inoffensif.
même si Manchester City également, mais on va dire
l'occasion, Arsenal. L'occasion de Trossard, par exemple, elle ne se crée pas sur une boulette, par exemple.
Celle-là, tout à fait, mais l'occasion d'Erling Haaland ne se crée pas non plus sur une boulette, là où il rate la balle, oui, sur une déviation. Donc, ouais, pour moi, franchement, les débats étaient assez équilibrés. Je loue la performance défensive, ça ne veut pas dire qu'ils ont mis le bus d'Arsenal, mais je loue la gestion des espaces d'Arsenal sur toute cette rencontre. Ça, c'est clair et net. Et oui, Flo, si tu décortiques point par point, évidemment que le match n'est pas un copier-coller. J'en parle dans le scénario, j'en parle dans l'approche. Je parle de copier-coller également dans les idées, dans ce qui va se faire du match. Moi, ce qui, c'est, j'en veux finalement pas tellement aux deux entraîneurs, parce que c'est leurs idéologies. Moi, j'en veux à cette façon d'aborder le football, en fait.
Ouais, bien sûr.
J'en veux à ce copier-coller. J'en veux à ce jeu de position à outrance.
C'est justement ça la question qu'on peut se poser, Victor. Ça fait partie un petit peu du débat qu'on essaie d'instaurer là. C'est est-ce que voilà, le football de haut niveau doit forcément être synonyme de spectacle, par exemple. Est-ce qu'on doit faire aussi la part belle à un jeu qui peut être sur moins de prise de risque, plus de pragmatisme, par exemple.
Et pour moi, le football ne doit pas être forcément un spectacle. Ça, c'est quelque chose qui m'horripile. C'est que lorsqu'on est à haut niveau, lorsqu'on est des athlètes de haut niveau, qu'un entraîneur risque sa place en permanence, risque son emploi, que lorsque les joueurs risquent leur réputation haute, le spectacle, on s'en contrefou. Mais le problème, c'est que moi, je pense ça, et je l'ai toujours dit, mais qu'il y a la majorité des gens qui se sont offusqués, des gens qui se plaignent de cette rencontre, sont des gens qui, eux, pensent que la manière est plus importante, que le chemin est plus important que le résultat. Ce qui est une mentalité et une idéologie qui se défend, qui est tout à fait louable. Mais faut pas adapter son discours lorsque cela ne s'avère plus vrai. Et là, dans ces deux rencontres, lorsque Guardiola rencontre Arteta, la manière, ils en ont, pour ma part, en tout cas, je trouve pas grand chose à faire. Ils sont extrêmement têtus, extrêmement pragmatiques.
Excuse-moi, Victor, vas-y, continue. Je voyais avec toi aussi, nous entendons encore.
extrêmement têtus, extrêmement pragmatiques. Et ils vont au bout de leurs idées. Et ça, c'est respectable, quitte à s'en contrefoutre de ce qui se passe dans les tribunes ou de notre avis téléspectateur. Et moi, j'aime ça. C'est un des rares côtés que j'aime bien chez Guardiola. Sauf qu'après, en conférence de presse, ou plutôt, pas forcément Guardiola le premier, mais les fervents défenseurs de Guardiola, eux vont venir nous dire, ah, mais c'était du beau football, c'était ci, ça, ça. Non. Ouvrez les yeux. Comme les gens qui se touchaient sur l'Espagne entre 2008 et 2012. C'est affreux. Regardez un match de la Roja, c'est affreux. Alors oui, il y a des séquences de possession lunaire, le tiki-taka, il y a des trois séquences, c'est joli. Mais c'est pas ça le spectacle. Le football, c'est pas la possession en transe, c'est pas un jeu de position, c'est pas un jeu d'échecs. Moi, je me suis fait le Real Madrid Bilbao, donc hier soir, ou même le Liverpool Brighton avant le match, mais vous prenez des claques. C'est plus agréable à regarder. Maintenant, le résultat est plus important. Mais moi, ce qui me gêne,
c'est... Il ne faut pas avoir ce monopole du bon goût, Victor. Je suis désolé, je vais te couper la parole, là, mais...
Mais je critique ça.
Laissez les gens apprécier ce qu'ils veulent. Arrêtons d'être dans le jugement sur ce que les gens apprécient et apprécient pas. Moi, je prends autant mon pied devant du jeu de position que devant du jeu libre de Jurgen Pressing à la Klopp ou à la Ancelotti. Les deux peuvent exister et moi je trouve que la diversité qu'on doit avoir dans le football, il faut la garder, il faut la préserver et il faut laisser les gens choisir le football qu'ils aiment. Alors des matchs
et comme ça, je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est que ces personnes, en tout cas, et beaucoup de personnes, eux vont imposer cette vision du beau jeu.
Ah bien sûr.
Et c'est là où moi j'ai ce souci. Où je sais que par exemple je m'énerve beaucoup avec mon ami Eliott Lafleur que je vais citer pour une deuxième fois dans ce podcast à ce sujet.
Il est plus présent dans ce podcast quand il est pas là lui quand même.
Mais pareil, c'est aussi un des points que j'ai, un des gros problèmes que j'ai avec Guardiola, même si comme j'ai dit il est beaucoup plus pragmatique que ce que l'on pense. Mais voilà, c'est pas ma sensibilité, le jeu de position. Et quand vous voyez deux équipes de jeu de position qui se rencontrent, c'est les plus grosses purges pour moi objectivement que vous pouvez voir. Maintenant, c'est pas une raison de dire que ce mode de jeu est nul. D'ailleurs, il a des résultats. Encore heureux que les entraîneurs jouent de cette manière. Si vous souhaitez gagner, c'est une des meilleures manières possibles. Si vous arrivez à le mettre en place et que vous avez les bonnes individualités pour le faire. Hein. Parce que le jeu de position, contrairement à quasiment tous les autres styles de jeu, c'est pour ça que c'est pas ma sensibilité. Si vous êtes pas à Manchester City, le FC Barcelone, Real Madrid ou le Paris Saint-Germain, votre jeu de position, vous pouvez pas le mettre en place. Hein. Parce que ça dépend tellement des qualités individuelles et du QI football de vos joueurs que ça, là, si vous êtes Versailles, vous n'allez pas me le mettre en place et monter en Ligue 2. Donc c'est un peu ça qui me gêne. Au-delà de ça, voilà. Moi, ce que je reproche, c'est que c'était un spectacle de merde. Venez pas me dire que c'était du beau football. Il y a des choses qui sont intéressantes et juste arrêtez de nous casser la tête avec cette ode au beau football. Là, vous avez été pragmatique. J'en suis très content et Arsenal peut être très content de ce résultat.
Et je finirai juste après sur ce débat quand même. pour nuancer un petit peu sur la part du jeu de position, on a vu quand même, je me rappelle l'année passée, par exemple, un match de Coupe de France où le PSG a affronté une équipe amateur, je sais plus qui a fait des sorties de balles vraiment très intéressantes. Ça vient en partie des influences du jeu de position, donc.
Par séquence, oui.
Par séquence, oui. Mais je veux dire quand même que ce football-là, il apporte quand même des choses qui sont quand même pas inintéressantes, même à plus bas niveau, à des équipes qui peuvent s'en inspirer.
Même dans la notion de l'entraînement et tout. Non, mais Guardiola, c'est celui qui a le plus influence. Je suis entièrement d'accord avec toi. Excuse-moi si dans ma vision, je suis un peu manichéen et que je laisse percevoir que du noir dans mon avis du jeu de position. Évidemment que ça a une excellente influence. Mais ce jeu de position à outrance pour gagner des matchs, on voit le résultat lorsque ça rencontre une équipe similaire, entre guillemets. Et on voit aussi que voilà, c'est impossible à mettre en place à plus petite échelle. Par séquence, oui, dans la notion de l'entraînement, dans le développement des jeunes joueurs, c'est très intéressant, c'est même primordial, je pense, aujourd'hui. Mais ça a ses limites, et ça a ses limites dans la notion de spectacle aussi, et on l'a vu ce week-end.
Voilà, mais la conclusion que tu as est la même pour la mienne. Arrêtez d'avoir le monopole du bon goût, arrêtez de décider que tel ou tel football est le mieux. Laissons chacun avoir sa sensibilité, il y a de la diversité dans le football et on devrait s'en réjouir plutôt que de s'accuser les uns les autres de préférer tel ou tel football.
Eh ben, c'est un débat qu'on va vous proposer sur les réseaux sociaux de temps additionnel. Est-ce que pour vous, il y a une nécessité absolue d'avoir du spectacle, du grand spectacle dans les matchs de football, hein. On va prendre, en prenant bien sûr l'exemple de ce match de ce week-end opposant City et Arsenal. On va passer au dernier sujet avant de filer au quiz, messieurs, puisque nous avons un édito. On va retourner du côté de l'Allemagne avec Xabi Alonso, qui a annoncé lors d'une conférence de presse ce week-end qu'il allait rester du côté du Bayer Leverkusen. Hein, c'était aussi ça l'actu du côté de la Bundesliga. C'est une décision qui a été attendue du côté de Leverkusen, puisque il y avait des rumeurs hein, comme quoi il pourrait partir du côté du Bayern Munich notamment, du Real Madrid. On parlait de Liverpool aussi, beaucoup pour le technicien espagnol. Et au final, voilà, ça va faire une saison de plus pour l'ancien joueur de Liverpool pour coacher le Bayer Leverkusen, qui est probablement le futur champion d'Allemagne, déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions d'ailleurs. C'est l'un des rares clubs en Europe a déjà avoir poissonné son ticket pour la Ligue des Champions. Et Victor, tu voulais nous parler de cette décision et en nous posant la question, est-ce que c'est une décision parfaite ou tout simplement une étape dans son plan de carrière?
Oui, parce que tu dis que c'est pour une saison, mais donc il annonce qu'il reste pour la saison prochaine, mais il a un contrat jusqu'en 2026. Notre ami Xabi Alonso, c'est un peu la grosse surprise, puisque courtisé par Liverpool, par le Bayern, également par Chelsea, et cette info qui est sortie la semaine dernière, voilà, pour potentiellement remplacer Mauricio Pochettino, que des plans bourbiers, à part Liverpool, où ça aurait pu, pour le coup, le fit aurait pu être très sympa. Mais voilà, Xabi Alonso est peut-être une des personnes les plus intelligentes dans le monde du foot actuellement. Il a fait que des excellents choix de carrière. On va dire qu'en fait, avec cette année, avec le Bayer Leverkusen, qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe, en tout cas sur l'exercice 2023-2024, 38 matchs avec Leverkusen, zéro défaite, il s'est acheté une telle réputation, une telle légitimité que même si l'année prochaine, le Bayer Leverkusen finit relégable, il pourra tout de même signer dans un grand club, et c'est bien pour ça qu'il a raison de continuer à faire ses armes avec Leverkusen. Il a raison aussi parce que c'est Xabi Alonso, s'il reste à Leverkusen, c'est le meilleur moyen pour convaincre des joueurs comme Frimpong, comme Wirtz, de pourquoi pas aussi continuer cette aventure avec le Bayer Leverkusen. Donc c'est un argument pour le Bayer, mais également pour Xabi Alonso, qui va continuer avec des joueurs qu'il connaît, des joueurs qu'il a réussi à façonner. On a envie de voir ce que ça donne en Ligue des Champions, mais là où je me pose la question, est-ce que c'est le choix parfait ou juste une étape au sein de Saga, c'est que moi, selon les infos que j'ai pu lire et ce que je sais aussi, on est quand même sur plutôt le fait d'attendre le Real Madrid. On est sur un choix de la part de Xabi Alonso de 2026, fin de contrat de Carlo Ancelotti, 2026, fin de contrat de Xabi Alonso, sauf cataclysme l'année prochaine avec Leverkusen ou alors cataclysme avec Carlo Ancelotti au Real Madrid l'année prochaine. Normalement, Xabi Alonso finira à la tête du Real Madrid. Je pense que c'est le meilleur fit possible. J'en suis tellement heureux. Alors après, là, j'en parle comme si c'était déjà fait. Rien n'est fait. En tout cas, on prend clairement cette direction parce que on le sait. Il y a eu des petites souris qui se sont glissées dans le téléphone de Xabi Alonso. Mais Florentino Pérez a participé à cette décision de Xabi Alonso pour qu'il reste au Bayer Leverkusen, en lui disant voilà, s'il pouvait attendre un peu, finir le cycle Carlo Ancelotti, Xabi Alonso sera le parfait architecte pour ce nouveau Real Madrid. Donc, excellent choix de rester à Leverkusen. Et en plus de ça, mon ami, t'as une voie toute tracée dans le plus grand club du monde. Et si tu continues à nous régaler comme ça, là, moi, j'étais déjà conducteur du train. Attention à ce que je finisse pas tout nu.
Ah, attention, on va avoir des plaintes, Victor, si tu continues. Non, juste pour rebondir rapidement, c'est un sujet qu'on a évoqué avec Karel dans notre groupe privé. Oui, mais pour lui, c'était en fait la décision. Pour lui, elle était prévisible dans le sens où il va finir, on sait tous que c'est pour finir au Real Madrid. Bah oui, et du coup, moi je vois pas où est le problème personnellement.
Tu vas pas aller au Bayern, s'il vous plaît. C'est Hollywood. Hollywood, tu n'y vas pas. Liverpool était un choix très tentant, mais est-ce que c'était le bon moment après seulement un an? Et il risquait peut-être de se griller, sachant que Liverpool, il y a des attentes. Tu prends l'après-Klopp, c'est un enfer. Le Real, dans tous les cas, tu sais où tu mets les pieds. Tu sais la pression que tu vas avoir.
Il aura la pression de l'après-Klopp, il aura la pression de légende du club aussi, puisque voilà. Il y a d'anciens en PL, t'as d'anciennes légendes de clubs qui se sont vautrées en tant qu'entraîneurs. Les derniers en date, que tu vas prendre Frank Lampard par exemple à Chelsea où ça s'est très mal passé. Même des anciens joueurs de sa génération. Tu prends un Steven Gerrard pour qui sa carrière d'entraîneur est un flop monumental aussi. Pour moi, je trouve que il a fait les choses correctement. Il va passer, on va dire, grand max encore 2 ans du côté de Leverkusen. Il y a un beau projet encore à construire. Sauf retournement de situation, au vu des premières infos qui sortent, il ne devrait pas y avoir une grande cavale du côté de Leverkusen. C'est-à-dire que Xabi Alonso devrait garder une grande partie de ses cadres, peut-être même pouvoir renforcer un peu plus son effectif. Donc, c'est une bonne chose. Il va pouvoir travailler en amont. Et puis, pourquoi pas commencer à façonner certains joueurs pour... Pourquoi pas les amener du côté de Madrid dans 2 ans, voilà, par exemple.
Et puis, il y a aussi un apprentissage qui va être fait l'année prochaine, avec la Ligue des Champions, qui va pouvoir appréhender et se construire avec Leverkusen, sans trop de pression et sans avoir beaucoup à perdre, parce qu'il n'aura pas grand-chose à prouver en Ligue des Champions, hormis découvrir la compétition. Donc, c'est une décision qui est logique. Et pour appuyer vos propos, oui, il aura beaucoup moins à perdre au Real qu'à Liverpool. Ou si jamais ça se passe mal au Real, bah, il pourra faire un peu storytelling en disant que c'est le contexte du club qui est particulier. Mais même par rapport à Liverpool, où c'est vrai que la presse anglaise, le contexte anglais peut être très, très, très rude. Et on a vu beaucoup d'entraîneurs se casser les dents, surtout après avoir repris un cycle d'entraîneurs longs. Je pense à un Emery, par exemple. Je pense à un certain Moyes aussi à United. C'est toujours compliqué en Angleterre de repasser après un long cycle d'entraîneur.
Non, mais il y a ça, il y a le truc, le Real, t'es prédestiné à ça, t'es espagnol, t'es considéré comme le plus grand espoir du monde en termes de coaching, parce que tu es réuni, enfin, il faut se rendre compte, je l'ai déjà dit dans ce podcast, Xabi Alonso, c'est un cheat code. Son père était entraîneur, il a été numéro 6, il a été entraîné par Mourinho, Guardiola, Mourinho, Guardiola, Carlo Ancelotti, c'est un cheat code. Tu ne peux pas faire un meilleur prospect que Xabi Alonso. Il fit parfaitement. Et puis, si tu vas à Liverpool et que ça foire, on n'est pas sûr que le train Real Madrid repassera une nouvelle fois. Et le Real Madrid, c'est l'étape suprême, entre guillemets, pour entraîner un club. Alors, le FC Barcelone à la grande époque aussi, pourquoi pas. Mais voilà, le plus grand club du monde. Donc, autant le faire. Tu as raison. Et puis, sur la Ligue des Champions, tu vas te faire tes armes. Et surtout, moi, cette année et l'année prochaine, les gars, il y a la nouvelle formule de la LDC. Ah oui. Donc, ça aussi, un peu particulier à appréhender. Tu te retrouves à Liverpool. Comment tu dois gérer le nouveau calendrier avec 8 matchs de poule, plus la pression de la première ligue? Tranquille, reste à Leverkusen. Fais tes armes. Essaye de garder ton titre en Bundesliga et de définitivement t'asseoir sur la table des grands. Et même si tu finis relégable, la porte du Real Madrid sera grande ouverte. Xabi, viens. Viens.
Eh ben, vous savez quoi, messieurs? On va pas terminer cette émission tout de suite. On va rester avec Xabi Alonso parce que c'est l'heure. C'est l'heure, messieurs, dames, du quiz. Allez.
J'ai perdu direct, c'est sûr. Déjà, Victor, c'est une machine dans les quiz. Alors, en plus, Xabi Alonso, c'est fini.
Ouais, oui. Voilà, ça sera encore une nouvelle déconvenue pour Florent.
Voilà, mais je fais la tactique Karel, comme on le dit. C'est annoncer sa défaite auparavant. Comme ça, si on gagne, c'est une surprise. Si on perd, c'est normal. Voilà.
Ouais. Vous l'aurez compris, j'aime bien mettre un mal Florent dans les quiz. Parce qu'il aime bien le faire quand on fait les previews PL.
Voilà. C'est bien faux.
Voilà. C'est parti. Première question, on va commencer.
Attends, c'est de la rapidité ou pas?
Non, c'est pas de la rapidité. C'est vous avez une question chacun, 5 questions chacun. Pas de proposition pour celle-ci. Donc va falloir deviner tout de suite. Première question pour toi, mon cher Florent. Quel était le numéro de maillot que Xavi Alonso portait lorsqu'il a encore remporté la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne?
Oh, je suis tellement dans la merde.
Et moi, j'ai pas le droit de répondre, on est d'accord?
Non, tu n'as pas le droit
c'était de répondre. C'était pas le 21?
Non, mauvaise réponse. C'était quoi, Victor? Tu l'avais peut-être, toi.
14, non?
C'est une bonne réponse.
J'ai hésité entre les deux, putain.
C'est une très bonne réponse, c'était le 14, en effet. Deuxième question, cette fois pour toi, Victor. Contre quelle équipe Xabi Alonso a-t-il marqué son premier but en tant que joueur professionnel?
Enfoiré. Enfoiré. Waouh.
Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est vraiment dure, pour le coup.
Tu remarques qu'il m'a donné la question plus facile et toi, les plus difficiles. Et comme ça, il y aura quand même un moment de suspense.
Mais je ne sais même pas, je n'ai même pas le souvenir. Il commence où sa carrière?
C'est
quel championnat?
À la Real Sociedad.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Vas-y, je vais te dire, il marque contre l'Atlético.
Et non, c'était con. Alors là, tu ne l'aurais jamais eu. L'Albacete Balompié.
Ok, super. Albacete, en plus. Oh là, ça joue en jaune. Quel enfer.
0-0. Florent. Quelle est la particularité statistique impressionnante de Xabi Alonso en finale de la Ligue des Champions 2004-2005?
Attends, juste sur la finale 2004-2005?
Ouais.
Il a réussi toutes ses passes?
Non. Celle-là, elle était technique aussi. Alors, Xabi Alonso est devenu le premier joueur à remporter la Ligue des Champions en marquant un pénalty en finale et en ayant été averti de 2 cartons jaunes dans le tournoi seulement.
Voilà. Ah, c'était pas sur la finale alors, c'est la compétition.
Voilà, c'est ça, c'est la stat que j'ai trouvée. Voilà, okay. Une stat bidon, mais elle existe, donc voilà. Toujours 0-0. Nouvelle question pour toi, Victor. Quel est le club où Xabi Alonso a commencé sa carrière d'entraîneur après sa retraite en tant que joueur professionnel?
La Real Sociedad Reserve.
Oh, il a été précis parce que je l'aurais pas accordé. Mais bien joué, bonne réponse. C'est la réserve de la Real Sociedad. Bonne réponse de Victor. Et oui, en effet, ça est... en quelle année, tiens? Juste pour le flex.
Il prend sa retraite en 2017. Et donc, je dirais qu'en 2019, il commence. Ou en 2019?
C'est en 2019, tout à fait. Il a été. Alors on ne le compte pas celui-là, mais il a été entraîneur des jeunes avant du côté de Madrid.
Ouais.
Mais ça, c'est pas la.
C'est avec la les juvéniles, c'est pas pour moi.
Exactement. 1-0 pour Victor. Nouvelle question, je relance le jingle, bien évidemment. Nouvelle question pour toi, Flo. Quelle distinction individuelle Xabi Alonso a-t-il remporté en Liga en 2011-2012?
Meilleur joueur?
Non, pas exactement. Meilleur milieu de terrain.
D'accord, voilà. Ok.
Meilleur milieu de terrain.
C'est un supplice, quiz. C'est un supplice.
Nouvelle question pour toi, Victor.
Donc, pour vous dire, hein, je ne sais même pas qu'on récompensait les meilleurs milieux de terrain en Ligue 1. Je pensais que.
C'est par Marca. C'est Marca qui. Notamment avec le trophée Stefano pour le meilleur joueur du championnat.
Voilà. Quel meilleur gardien, etc.
Quelle culture.
Exactement. Nouvelle question. Dans quelle équipe Xabi Alonso a-t-il joué le plus de matchs en club au cours de sa carrière, Victor?
Liverpool.
Alors, on va faire un petit décompte par rapport à ça. Du côté de... Attendez, j'ai plus mon truc sur les yeux, pardon.
Ok, attends. Attends, parce qu'il fait quoi, cet enfoiré? Il fait...
Bah, valider Liverpool, c'est validé.
C'est validé. Alors, Xabi Alonso a joué 124 matchs du côté de la Sociedad entre 2000 et 2004. Ouais. Un prêt à Eibar en 2000, 14 matchs. À Liverpool, il en joue 210. Au Real, il en joue 236.
Putain, l'enfoiré, il fait plus de matchs au Real.
Au Bayern, 117. Donc, c'est au Real Madrid. Mauvaise réponse, du coup. Bon, pour quelques matchs, mais bon, tu n'as pas la bonne réponse, malgré tout.
Je savais que c'était une mauvaise réponse parce que j'aurais aussi dit Liverpool. Donc je savais que c'était pas la
Florent, combien de fois Xabi Alonso a-t-il été nommé dans l'équipe de l'année de l'UEFA Champions League?
Alors, beaucoup de fois. Ça marche ou pas?
Alors, c'est plusieurs, en effet, oui.
Mais, allez, combien? Je vais dire 7 fois.
C'est 3 fois.
Ah ouais, d'accord.
Alors, pour autant, beaucoup de gens le sous-cotent. Toi, t'as tendance à un peu le surcoter, je t'adore.
Mais Mais oui, mais écoute, je suis juste un inculte, hein. C'est juste, s'il y a même pas de surcotage ou sous-cotage, c'est juste que c'est moi qui ai surcoté, c'est tout.
Alors, nouvelle question, quel est le montant total des transferts de Xabi Alonso tout au long de sa carrière de joueur professionnel, Victor?
Moi, bon, ça doit pas être très élevé, 55 millions.
55 millions. Prenons nos plus belles calculatrices, messieurs. Xabi Alonso a coûté en tout combien? Alors, il est parti. Non, là, je suis sur son profil manager, autant pour moi. Il a été cédé à Liverpool pour 16 millions d'euros en 2004. Donc, déjà, nous sommes sur une somme qui était conséquente à l'époque, qui aujourd'hui ne signifie plus rien. Il a été cédé pour 34,5 millions du côté du Real Madrid en 2009. Nous sommes à 50,5 millions et il a été cédé pour seulement 9 petits millions au Bayern Munich en 2014. 59,5 millions.
On peut lui donner, ça va pour 4
millions. On lui donne. Allez.
C'était exactement l'idée que je me faisais. Tu vois, c'était le gros truc entre 20-30 millions entre Liverpool et Madrid, et puis le Sociedad de Liverpool 10 millions et le Liverpool et le Real Madrid Bayern 10 millions quoi.
Bon, de toute façon, Flo a perdu. Hein, il y a deux points d'écart.
C'est une surprise. Hein, voilà.
Dernière question. Allez, pour vous deux, comme ça au moins, celle-là elle est bien dure en plus. Quel est le nom du livre que Xabi Alonso a publié en 2023?
Genre, je lis des livres, moi.
Pardon, alors, pas forcément publié. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a vraiment publié, mais c'est un livre qui parle de sa tactique. Donc, je pense que ça vient de lui, d'une idée de lui. Ça est sorti en décembre 2023. Le nom.
Alors là, mon grand.
Est-ce qu'il y a le mot or dedans?
Non.
Bon, allez, quel est le mot doré dedans?
Je vous la donne. C'est Xabi Alonso, The Game El Maestro. Voilà.
Ah, un modelo de footballista.
Ben, c'est pas celle-là. Ça, c'est un autre où il est à la fin de sa carrière, je crois. Qui sort à la fin de sa carrière, il me semble. Mais ça, c'est une autobiographie. Là, il parle plus tactique dans celui-là, apparemment. Mmh. Voilà. C'était juste une petite question bien pour vous faire chier. Mais Victor l'a emporté. Bravo à vous, monsieur Brochet.
Puis c'est un 3-0, hein, parce que moi, le 14, je ne l'ai pas oublié. Hein. J'ai trouvé la réponse de Flo.
Ouais, c'est bon, allez, chez moi, tu vas chier, vas-y.
Je suis pragmatique, je vais au bout. Eh, peu importe le spectacle, je vais
chier. La voiture qui est à Paris, du coup, et je me mets dans les toilettes et tu me chies dessus. Alors, on fait comme ça si tu veux. Voilà,
non, mais la prochaine fois, Flo, je te ferai des questions, genre en quelle année il a remporté la Coupe du Monde.
Je me planterai aussi, il n'y a pas de problème.
Oh non, t'es sérieux? Non, bah non.
Non, non, là, quand même pas. Je sais qu'il a gagné la Coupe du Monde en 2006, il n'y a pas de problème.
il est drôle. Ça se voit qu'il écume les planches, celui-là.
Il y a le seum.
En tout cas, Flo, c'est la deuxième personne contre moi avec Karel qui marque 0 points. Et ça, c'est vraiment un plaisir.
Bah, tu vois, ce qui me fait le plus mal, c'est d'être cité dans la même phrase que Karel. Après, j'aurais pu m'en remettre.
Un Gunners qui n'a jamais gagné. Enfin, un Gunners, pardon. Un Reds qui n'a jamais gagné à l'Etihad. Voilà.
Vous n'avez pas gagné depuis combien de temps, l'Etihad?
Depuis 10 ans, 2014, avec un but de Giroud et un but de Cazorla.
Je ne prendrai pas de leçons de morale des fans de Liverpool. Voilà. Ils me disent.
À noter.
C'est absolument vrai que Klopp n'a jamais gagné aussi en 10 ans à l'Etihad.
Voilà. C'est vrai. Mais donc, ne vous donnez pas de leçons, finalement. Ne nous vous parlez pas, les fans.
Voilà.
Parlez-nous. Il y a des très bons tweetos de Liverpool. Je pourrais les citer, d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment des très, très belles personnes du côté de Liverpool. Et je suis certain que la fanbase qu'on voit sur Twitter, qui est malheureusement dominante dans les posts qu'on relaie, ne ressemble pas à la fanbase qu'est Liverpool. Le plus bel exemple, c'est Karel, parce que Karel, tu peux avoir de très belles conversations footballistiques avec lui. Et je suis sûr que la quasi-globalité des supporters de Liverpool ne seront comme ça. C'est juste qu'il y a tout avec Twitter, avec la course au buzz, et tu fais toujours la punchline qui énerve les gens.
Eh oui, comme d'habitude. Voilà, c'est des
choses. Je suis un gros réac, allez appeler moi Pascal Pro.
Voilà, merci. Comme ayant bien flingué l'ambiance d'une fin d'émission, merci à toi, Flo.
Je rendais hommage aux supporters de Liverpool à la base, parce que c'est un très grand club pour qui j'ai beaucoup de respect et les supporters sont fabuleux.
C'est vrai, tout à fait. Puis Karel, on est le parfait exemple dans cette émission. Merci, messieurs, de nous avoir proposé ce bel épisode d'1h10. Hein. On a un peu dépassé le timing, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein, le décrassage, on raffole toujours de quelques minutes supplémentaires. Et puis, on va se retrouver très rapidement, puisqu'on va vous préparer un petit hors-série pour mercredi. On va essayer de se foutre sur la gueule un petit peu, ça fait longtemps. Notamment sur des petites compositions d'équipe. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va comparer certaines générations, notamment. Voilà, on va parler de tout ça ce mercredi. Et puis, voilà, les previews qui vont arriver petit à petit en fin de semaine. Et puis, bon, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du Décrassage. Ce sera déjà le 12e. C'était traditionnel. Passez une excellente semaine de football. Ciao tout le monde.